Ça pourrait pas être certain original, même. Ouais. Donc vérité sans S, ou vérité, peu importe, c'est vérité avec S. Enfin, ça m'a paru de telle urgence que finalement, c'est un problème que j'ai d'ailleurs non seulement avec mes proches, mais avec beaucoup de gens que je connais. Parce que dans toute discussion, souvent, on arrive à dire que finalement, la physique du sujet, je ne vois pas pourquoi toi, tu détiens la vérité. Moi, j'ai ma vérité.
Donc,
c'était très terrible. Donc, je veux dire que, et moi, il me paraît de plus en plus évident, mais ça, je voudrais dire aux enfants, que, aux petits-enfants surtout, parce que les autres le savent déjà, que finalement, la vérité, c'est le seul, vous ne pouvez rencontrer l'autre que dans la vérité. Et que finalement, je pense que, là je parle mon nom, que vous ne pouvez pas rencontrer l'autre si vous ne partagez pas avec le même. Alors, c'est une discussion que j'avais souvent avec Benoît, des discussions que j'ai avec beaucoup de gens, avec notre Thierry. Mais beaucoup, je peux l'avoir avec Sophie, avec beaucoup de gens que je connais. Alors que c'est un sujet premier. Si on devait se traiter qu'un seul, à mon avis, si on devait traiter un seul sujet, c'est ce sujet-là. Et je pense que finalement, s'il y a d'autres séances qu'on aura l'occasion de rencontrer, si vous voulez bien, on poursuivra dans cette lignée. Parce que la vérité, d'abord, c'est une chose qu'il faut bien admettre. On ne peut pas, on peut pas la penser, on ne peut que la vivre, l'éprouver. Donc, c'est comme la vie. Voilà.
Oui.
Donc, ce sujet-là, je commence tout de suite pour la prochaine fois, oui. Ce sera aussi que... Alors, on avait dit, ce serait bien, parce que finalement, comme il y a plusieurs points de vue sur la question, ce serait bien que différentes personnes en parlent.
Bien sûr.
Finalement, ça concerne tous, mais ça concerne chacun d'entre nous en premier. Donc, Suze a bien voulu accepter...
Ouais. Bien sûr, que je ne te refuse rien.
J'ai mon travail en plus.
Ah oui, oui.
Là, il y a des
souligné. D'autant plus que c'était déjà sous-jacent et présent dans le livre que vous avez.
La dernière fois, oui, vous avez étudié. Pas étudié.
Voilà.
Plus chier.
Et d'ailleurs, vous reviendrez, quand tu as dit, Alain, quand tu m'as dit qu'est-ce que je peux mettre comme petit passage, il m'a dit, tu mets le premier passage de l'introduction.
Voilà.
Voilà. Alors, moi je vous propose, on n'est pas là pour débattre sur le sujet, on est là pour écouter l'un l'autre.
Oui, bien sûr.
Par contre, vous avez le droit de donner votre opinion à la suite, mais aussi de demander après des questions à chacun. Voilà, c'est tout, pour éclaircissement. Il ne s'agit pas de vouloir juger et d'arriver à un consensus.
Ou d'essayer de convaincre les autres, voilà. Je ne vois pas comment.
Alors, je propose...
Vous avez vu qu'on cache une teuf, ça devrait réussir.
Oui.
Je propose, si tu veux bien commencer,
oui,
et après, ce sera à l'heure. Et moi, comme c'est un petit peu de terrain, ce sera en conclusion.
D'accord.
Voilà.
Oui.
Et les autres, on doit parler.
Enfin,
pas trop interrompre, parce que...
Il ne s'agit pas d'interrompre tout de suite, quand même.
Non.
Parce que sinon...
Enfin, si c'est trop long, il faut le dire, stop.
Ah non, on a prévu, a priori, entre 10 et 15 minutes pour chacun.
Oui, il faut être raisonnable.
Maintenant, si ça peut être plus court aussi.
Oui, puis c'est pas forcément d'être en une seule fois.
On n'est pas obligé de parler quand on n'a rien à dire.
C'est vrai qu'il ne serait pas en politique ici.
Donc c'est pas une réunion politique.
Voilà.
C'est un privilège de pouvoir faire partager.
Pas de langue de bois. On n'est pas dans une réunion politique.
Voilà,
on dit que ce qu'on pense. Je viens ici.
Si on est d'accord sur le mensonge,
je n'entends pas très bien.
Ils détiennent tous la vérité, les politiques.
Ah bah oui,
ils détiennent tous la vérité.
Oui, ils se forcent, bon. Bon, ce concept que Robert nous a choisi, je l'ai trouvé, j'ai dit irritant, parce que dans le sens où ça nous démange dès qu'on en parle un peu, on se dit, tiens, c'est intéressant. Et puis parce que ça m'a rappelé avoir vu ce mot vérité pluriel, parce que là tu as mis vérité et S, mais à un moment tu as parlé des vérités plurielles. Alors tu voulais peut-être dire c'était la vérité de chacun, mais moi ça m'a rappelé un philosophe, j'ai eu du mal à le retrouver parce qu'il était dans un vieux livre de philo de mes enfants, c'est un anglais, il s'appelle André Green. Et puis, donc, il a sévi vers, 1970, c'est pas un vieux. Et donc, je voudrais pas vous citer grand-chose, mais celle-là, je vous la cite, parce que c'est un profil de la vérité en tant, pas la tienne, la mienne, etc., en tant que concept. Voilà. Et alors, il utilise, et j'étais ravie de retrouver sa phrase, qu'il n'y a plus de vérité unique, totale, mais la vérité plurielle ne se fait pas encore entendre. Alors donc, c'était nouveau à l'époque, tu vois, t'étais à la mode. Dire vérité plurielle, c'est reconnaître que la vérité rationnelle, celle qu'on pratique le plus souvent, Saint Thomas d'Aquin ou Descartes, ah, je crois que ce que je vois, etc. Cette vérité fondamental quand même, doit accepter les autres comme son ombre. Et c'est là qu'il parle de vérité plurielle. Il y a la vérité de l'imaginaire, les créations artistiques et tout ça. Va définir une vérité, si ça je sais pas, enfin, c'est très difficile. Il y a la vérité de spéculation, parce que souvent on dit « je te parie que ceci, cela », parce qu'on pense qu'on va avoir raison. On peut avoir tort, mais cette vérité, elle a une valeur aussi. Et puis la vérité de l'action, c'est-à-dire si on reste dans sa chaise sans bouger, etc., on n'est pas confronté à la vérité. Mais si on commence à sortir de chez soi, à bouger, à agir, à aller voter, ou je ne sais pas quoi, alors là aussi, on est en recherche de vérité. Alors voilà, c'est des domaines. Donc la vérité, elle est plurielle. Mais ce n'est pas en ajoutant toutes ces vérités-là, dit-il, ou en les juxtaposant, qu'on va arriver sous un nouveau vocable à une définition de la vérité, comme si on avait une nouvelle idée de la vérité. Alors, on ne peut pas choisir, ça correspond aussi, entre politique, philosophie, science et art, au niveau de cette vérité, il nous reste à chercher leur articulation. Et ça, à partir de ce que la vérité refuse, c'est-à-dire l'inconscient. Parce que c'est l'inconscient qui structure la fragmentation de la vérité. Alors ça peut ne pas plaire à... On préfère dire, c'est quelque chose, il y en a quand la science infuse, ou alors c'est quelque chose qui préexiste et puis qui va tomber sur certains, pas sur d'autres, etc. Ça peut être des conceptions de la vérité, moi ça ne me convient pas, mais bon. Et alors, moi ça me déplaît pas que cette vérité... Et ses racines dans l'inconscient, je le situe dans la petite enfance. Bon, j'ai peut-être tort, parce qu'au fond, c'est pas parce qu'on est vieux que l'inconscient ne se charge plus, c'est possible. Mais bon, moi je mets du temps où on était petit, naïf, inculte, Donc on est comme une pâte malléable, dans le temps ils appelaient ça la cire, dans Platon c'était la cire. Et puis dans cette chair humaine, c'est pas beau comme terme, mais par l'exemple, par l'expérience, par l'éducation, on guide le mieux possible, doucement, avec le moins d'erreurs possible. Déjà on en a fait, alors on essaie de faire commencer. On essaye de les guider vers des valeurs, la vérité, bien sûr. Qu'est-ce qu'on leur dit aux gamins ? Dis-moi la vérité, ment pas, c'est bien vrai ce mensonge-là. Tout ça, on essaye de les pousser. Et donc, je pense que c'est comme ça que, je dis aussi par l'exemple, alors que finalement, en tant que parents, on profite de leur naïveté en leur racontant un tas de bobards, et le Père Noël, et la petite souris, et puis le Père Saint-Nicolas, le loup-garou, et Dieu, et le diable, et tout ça. Ils ont besoin de sensations, ils ont besoin de poésie, ils ont besoin de mots nouveaux, et puis de premières pensées, parce que jusqu'à 7 ans, Enfin, je pense pas qu'un enfant, il n'y en a pas de 7 ans ici, mais... Alors, on pourrait dire, que, ça c'est Diderot, il disait, mais il faut faire confiance aux enfants, quand c'est bien, quand c'est vrai, ils sont heureux. Quand c'est pas bien, ils sont malheureux. Alors ça, c'est de l'angélisme, hein, parce que c'est pas, ça me semble pas une définition suffisante pour qu'un enfant puisse, même un adulte. Bon, alors, je sais pas si vous aimez Jean-Jacques Rousseau, mais moi, non. Il a dit des trucs, des vraies utopies. Ne point enseigner ni la vertu ni la vérité, mais garantir le cœur de l'enfant du vice et son esprit de l'erreur. Alors, il y a chez Attier, ils disent quel dommage qu'il n'ait pas gardé un de ses 5 enfants, puisqu'il les a tous abandonnés, pour juger de la vérité de ce précepte. Alors, donc, moi, je dis que c'est un utopiste. Voilà. Donc, les enfants, je vous en ai parlé. Antiquité, non. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, donc, on voit que c'est difficile d'y parvenir ou de faire parvenir à nos enfants. Alors, entre tous les vices et les vertus, pour essayer de dégager une notion de vérité, comment on peut faire? Comment on peut trier? Alors, il y a l'image de Descartes. On a un panier de pommes mélangé. Il y a des pourries, il y a des bonnes. Alors, bon, on trie. Ou alors on jette tout le panier puis on reprend que celles qui nous plaisent. Et par goût de l'ordre moral, en général, on a un préjugé qui nous conduit à penser que tout ce qui est bien cadré, tout ce qui se laisse ranger, tout ça, c'est ça les vérités. Et puis tout ce qui échappe un peu à l'entendement, alors je parle pas de la folie et tout ça, alors là, ça c'est le faux. Là, c'est le faux. Alors que les gens sincères ou en qui on peut avoir confiance peuvent être des gens qui n'ont pas d'ordre et qui ne sont pas dans des cadres. Donc ça, c'est un piège. Enfin, pour moi, c'est un piège. Je ne tombe pas dedans. Et mon image à moi, c'est que on passe notre temps à se goinfrer, à s'empirer. Pas s'empiffrer, mais enfin, si, quand même. De nouveautés, de découvertes. Tout nous intéresse. On essaye de se faire une idée un peu sur tout. Et puis, ce qui nous convient, ce qui nous aide, on le garde. Ça nous permet de structurer un peu notre personnalité. Puis ce qui ne nous convient pas, ça fait partie des résidus. Et il n'y a que comme ça, par atermoiement successif, en reprenant le chemin. Il y a une phrase que j'ai entendue qui était bien. Par rapport à la maison, je préfère le chemin qui y conduit. Et finalement, c'est mettre, y a ça aussi dans la religion, tu me chercherais pas si tu m'avais trouvé. Enfin, là aussi, dans cette image, il y a une maison, on voudrait, bon, mettons que ce soit la vérité, on voudrait y arriver, et puis, le chemin, il va à droite, il va à gauche, on tombe dans l'ornière, on se remet, etc. Moi, ça, c'est une image qui me convient. Je vous parle pas des fous, tout le long des siècles, parce que la folie a posé un problème. Est-ce qu'il y a une vérité dans la folie? Alors, Descartes, Kant, Freud, Lacan, 1650, 1766, 1901, tous les 50 ans, tous les 100 ans, ça change, quoi. Les philosophes, ils disent ce qu'ils pensent, mais on ne peut pas dire qu'il y a des vérités, puisque chacun a la sienne, et puis qu'ils disent tout et le contraire. Bon, alors, dans la seule phrase qui me plaît, c'est notre art, c'est d'être aveuglé par la vérité, seule et vraie la lumière sur la face grotesque qui recule, rien d'autre. Et ça, c'est le camembert du manichéisme, avec les deux tiers de lumière et puis le tiers d'obscurité, et l'obscurité qui cherche toujours à gagner sur la lumière, donc c'est une lutte un peu permanente, c'est un peu comme le chemin aussi, c'est un peu pareil. Une pause avec les vérités nettes et sans ambiguïté. Quand même, il y en a. Quand est-ce que César est né? Combien de pieds à un stade? Le carré de l'hypoténuse est toujours égal à la somme des autres carrés. Bon, tout ça, c'est sympa, mais c'est la vérité, le logique rationnel, quoi. C'est pas, en philosophie, la vérité, c'est pas que ça. Hein? Donc, ça, c'est des vérités qui nous confortent. Il faut bien qu'on ait quand même des petites choses sur lesquelles. Et encore, ça, je dis pas. Ça, tu l'avertis, ça t'avait plu, Robert. Pourquoi cette volonté absolue de vérité ou de vérité absolue? Volonté de ne pas se laisser tremper, mais par qui? Pourquoi on est méfiant? Volonté de ne pas se tremper soi-même, mais au nom de quoi? Pourquoi on est un tel manque de confiance? Alors, Einstein, il disait, quand on est confronté à deux théories, il faut en chercher une troisième. Voilà. Donc, c'est donc sans fin. Voilà. Et puis le langage est une source de problèmes aussi quand on discute, que ce soit de la vérité principalement, mais d'autres choses, parce que le même mot signifie pas la même chose pour les mêmes personnes, et pour la même personne, pas la même chose selon les époques. Si selon ce qu'on vit, bon, dans en amour, en n'importe quoi, on évolue, on change. Donc, voilà, il y avait deux trucs, si bien qu'il y a des choses qui sont concomitantes et puis qui ne se contredisent pas, mais qui répondent à deux. Je vous donne l'exemple. On disait simultanément, pour faire une bonne maison, faut la fille avant le garçon. Et puis on disait aussi le garçon d'abord, en même temps. Alors le garçon d'abord, c'est parce que le garçon, il faut qu'il transmette le nom, et puis il ne faut pas que l'héritage se disperse. Donc ça, c'était la vérité du point de vue masculin. Maintenant, pour faire une bonne maison, il faut la fille avant le garçon. Les femmes avaient beaucoup d'enfants. Quand elles en avaient 7 ou 8, elles mouraient en couche. Et de préférence, il fallait que l'aînée soit une fille, parce qu'elle avait déjà l'âge de remplacer sa maman. Et ça, c'est des choses qui s'expliquent et qui sont pourtant complètement différentes. Ça dépend du point de vue d'où on se place. Et puis, par exemple, des vérités, comme on disait, la mère, c'est sûr, le papa, je sais plus quoi, la mère toujours, le papa. Enfin, c'est mater, certissima, pater, semper, incertus. On comprend bien, hein? Alors, c'était irréfutable. Pendant longtemps, c'était la vérité. Ben, c'est plus vrai. Avec les tests avérés, ça, on sait très bien déterminer si c'est le père. Bon, c'est interdit en France, soi-disant, sauf pour les cas de procédure. Mais c'est très facile, c'est la porte ouverte à beaucoup de cas. Hein. Voilà, donc, voilà, ça c'est... Et puis même pour les femmes, hein, avec les FIV et tout ça, même, s'il y a des... je sais pas comment ça se passe, on ne doit plus... Si, on doit décliner ce qui donne...
Qui donnent leurs ovules.
Oui, ils doivent donner leur nom. Les parents. Non, c'est anonyme. Hein. Donc voilà, la mère, bon, bah, tu vois, tout c'est... Bon, bah, tout bouge, hein, et voilà. On a toujours un petit peu le cul entre deux chaises, donc faut pas être trop affirmatif dans ce qu'on sait. Alors, moi, j'ai aimé Marcel Proust, parce que cette vérité... du début à la fin, hein, de la recherche du temps perdu jusqu'au temps retrouvé, il n'a fait que ça, détecter ses erreurs, essayer de débusquer ses manques et tout ce qu'il avait fait comme folie, et se trouver lui-même, et puis il écrit, puis ça on ne peut pas être pas d'accord. Chaque être humain est un vase clos sur lui-même, ne peut se faire une idée du monde des autres, des événements, des situations, des arts et des musiques, qu'à travers le filtre de sa propre sensibilité. On ne peut pas faire autrement. C'est pour ça que c'est si difficile. Bon, alors voilà, toutes nos... Eh bien, il le disait aussi, Platon, toutes nos impressions et nos opinions sont vraies, car l'être est entièrement dans ce qu'il lui paraît, à chaque individu. Donc, alors, moins 300 ans avant Jésus-Christ, et puis Proust, 1920. Donc, voilà, puis j'ai fini. La vérité, bon, ben, ça, c'est... Oh, ben, j'avais mis toutes les expressions, je viens d'en retrouver une, la vérité sort de la bouche des enfants. Alors là, je suis pas d'accord.
C'est leur vérité.
Dire à quelqu'un ces quatre vérités.
C'est plus adulte.
Oui, ah, ben oui, exact.
Les quatre vérités.
Quatre vérités, je sais pas pourquoi.
Quatre vérités.
Dire à quelqu'un ces quatre vérités, ben oui, mais pourquoi pas cette... Vérité, sérum de vérité, la vérité, toute la vérité, bah, dans les tribunaux, en échange de la vérité, vous allez avoir droit à la justice. Voilà, ça c'est bien. Bon, des critères pour la définir, il n'y a déjà pas de définition, alors c'est pas la peine. Descartes, il dit l'évidence, mais l'évidence, c'est pas ça qui va nous donner une certitude. Bon, Kant, il dit qu'il n'y a pas de critère général. Et Heidegger, il dégage la notion de dévoilement. Alors ça, c'est pour finir. Et comme si la vérité, elle est cachée, elle est invisible, elle nous résiste, etc. Et donc, ça rejoint l'image, les allégories des arts plastiques, la sculpture, la peinture, tout ça. Il y a pas des... Ah non, ils sont pas du... c'est pas la vérité. Peut-être en musique aussi. Donc, la vérité, elle a un visage. Elle est nue. Elle sort d'un puits. Elle est assise sur un margelle. Elle a un soleil ou une étoile sur le cœur, et puis elle tient un miroir ou un flambeau. Alors donc dedans, cette allégorie, ben, on voit. Vérité, c'est... il faut que, qu'elle sorte de l'obscurité, pour, comme quand on va du soleil dans le noir, on l'éblouit, elle doit éblouir la vérité, elle doit être au fond d'un pied, elle doit être pas facile à trouver, qu'elle soit cachée, sinon c'est trop facile. Et puis, évidemment, elle propose une image, le miroir, et avec tout ce que ça peut comporter de déformation, de mirage, etc. Le miroir, c'est jamais une image bien fidèle, hein. Voilà, c'est tout. La phrase de Martin Scorsese, elle est dans le papier. Et celle de Michel de Montaigne, quand même, on va lui faire un petit hommage. Mes conceptions et mon jugement ne marchent qu'à tâtons, chancelant, bronchant et chopant. Donc ça, c'est le que sais-je des sceptiques, qui est évidemment un cul au cul de la vérité, hein. Parce que ça veut dire, ben, malgré tout, vous la trouverez pas. Et ma phrase, je veux pas dire que, oui, si, on dit qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, mais quand même, si tant est qu'on veuille donner un sens à notre vie, et sans avoir la main sur la couture du pantalon, il faut, à mon avis, avoir l'énergie de faire vivre ce que nous acceptons, fût-ce provisoirement, comme nos vérités. Même si c'est provisoire. Parce que sinon, alors, on est un fétu au gré du vent. Voilà. It's over.
Voilà.
Un point de vue. Voilà. C'est qu'un point de vue.
C'est partagé par certains. Bon, ça, c'est une question. On va faire ça, chacun sur son vécu. Et maintenant, sur ce sujet, c'est un sujet que, d'une manière très experte, Alain, peut-être.
Je ne sais pas.
Moi, je suis.
J'ai très bien travaillé. Moi,
ah oui, mais moi, je suis une intellectuelle. Mais c'est toi, tu es un artiste. Tu es
un artiste.
Tu n'as
pas besoin de travailler.
Mais je suis David.
Suze,
c'est une question irritante actuellement.
Hein, c'est irritant.
Elle est très importante. Hein. On vit dans une société où le dogme, c'est qu'il y a pas de hein, c'est pour ça que le pape parle justement d'une dictature du relativisme. C'est la vérité, moi j'ai la mienne, il n'est pas assez. Le problème, c'est que quand on parle de vérité, derrière le problème de la vérité, il y a toujours le problème de Dieu. C'est...
Oui, enfin, sauf toujours. Si l'hypothèse de Dieu ne te concerne pas ou ne t'intéresse pas.
Voilà. Et vraiment, quand on me pose la question de Dieu, est-ce que c'est la vérité que Dieu existe?
Ah ben, c'est sûr.
J'ai toujours tendance, j'ai envie de répondre, moi, je ne sais pas si Dieu existe. Je sais qu'il m'aime.
Qui t'aime pas?
Je sais qu'il m'aime.
Ah, il t'aime.
Voilà ce que je
ah,
sais.
Ah oui,
de Dieu.
Oui.
C'est donc, c'est pas du tout le même ordre de connaissance.
Ah oui.
Après, qu'est-ce que c'est que l'existence?
Et quand on y pense, vous regardez ces petits-enfants, là, qu'est-ce qu'ils connaissent de leur maman, hein? Comment est-ce qu'ils connaissent l'existence? Qu'est-ce qu'ils savent qu'elle a? C'est parce qu'elle l'est, elle les aime. Le point, oui. Si vous, ils se fichent pas mal, que vous leur expliquiez par A plus B, par des preuves ontologiques, que leur mère existe. Ils ont une relation de cet ordre.
Oui, d'abord.
Vous voyez, on est dans une relation totalement différente. Et notre civilisation occidentale, qui n'est pas l'univers entier, qui ne résume pas toute la pensée, est un comportement bien spécifique qu'on ne retrouve pas dans d'autres civilisations. La notion de vérité pour un Chinois, là, c'est complètement différent, parce qu'on ne pose pas. Alors, dans l'Occident, le christianisme s'est confronté au monde gréco-romain, il a adopté, il s'est présenté comme la continuation de l'expérience philosophique. Il ne s'est pas du tout défini par rapport aux autres religions qui étaient nombreuses à l'époque. Non, il a adopté cette philosophie. Mais adoptant cette philosophie, en même temps, il a adopté les schémas mentaux. Et les schémas mentaux de la philosophie qui n'étaient pas les mêmes que ceux de la Bible, que ceux du monde oriental et que ceux de la plupart des pays à l'époque. C'est une spécificité, la philosophie. C'est,
oui,
c'est le monde grec qui l'invente, et il n'existe pas, il n'existe pas ailleurs. Ce mode de pensée. Alors, qu'est-ce qui caractérise, si vous voulez, la pensée? La pensée grecque, c'est son paradigme. Le paradigme, hein, c'est ce que la notion en fonction de laquelle on juge de la validité d'une idée. Qu'est-ce que c'est le paradigme de la pensée grecque? C'est l'adéquation de l'idée et de l'objet qu'elle vise.
De la pensée et de l'objet.
Saint Thomas d'Aquin disait adéquatio rei et intellectus. Ou tu me corriges si je me trompe. Hein, je me pas. Bon, voilà, ça c'est. Et toute la pensée occidentale a hérité de ça. Ça a été pour tout le Moyen-Âge, la scolastique, toute la philosophie médiévale a roulé sur ce qu'on appelle la question des universaux. C'est-à-dire entre l'idéalisme de Platon et le nominalisme, hein, c'est quelle est la relation entre ma pensée et l'idée. Est-ce qu'il y a une adéquation possible? Est-ce que la pensée peut vraiment rendre compte? Et toute la pensée occidentale fonctionne sur ça. Que ce soit, vous trouvez ça Sébastien, qui va être là, vous trouvez ça même dans la phénoménologie. La phénoménologie veut supprimer la distance entre la conscience et l'objet. Hein, voilà. On fait abstraction de ça. Mais on est toujours dans une logique d'adéquation.
D'adéquation entre la pensée et l'objet de la pensée.
Oui, tout à fait différent. Alors, j'ai essayé d'expliquer, dans le livre sur la jeunesse du féminin, que le paradigme de la pensée dans la Bible, c'est la fécondité. Jésus dit, on juge l'arbre en ses fruits. Et l'arbre, vous savez, dans la Bible, c'est notamment le figuier, c'est l'arbre de la sagesse, de la pensée. Donc si l'arbre donne des fruits, c'est bon. S'il ne donne pas de fruits, c'est mauvais. Hein. Voilà. Jésus, attend un peu le figuier, donne-lui encore un an pour voir s'il va donner du fruit. Le problème, c'est qu'il donne du fruit. Donc, le problème, c'est de la vérité, c'est le problème de la fécondité de l'esprit. C'est pas ce problème qu'on essaie d'avoir en Occident. Il y a une grande. Alors, évidemment, il y a eu une telle influence, une telle implication de la pensée chrétienne, de l'Église, dans la philosophie, avec tous les pères de l'Église, notamment saint Thomas d'Aquin, etc. Donc, reprend le schéma de la feu. On reprend ces schémas, l'éthique nicomaque, hein, c'est le juste milieu entre ça, etc. On essaie de définir au plus près. Donc il y a un mode de pensée grec, qui est donc, quand je dis grec,
occidental,
à exprimer la pensée par une formulation verbale qui va la circoncire le mieux possible. C'est pas possible dans la pensée juive. La pensée juive, vous savez, a pour principe une espèce d'incertitude. Enfin, c'est la pensée juive.
Ah bon?
Vous savez, je crois que l'année dernière, je vous avais déjà parlé de ça. Symboliquement, vous savez, il y a un système mnémotechnique qui fait qu'on commence les textes par les lettres de l'alphabet. Donc, chaque ligne, la première lettre, c'est le A, la deuxième ligne, c'est le B, etc. Voilà. Et symboliquement, la Bible, la Torah, commence par Bereshit bara Elohim, par le Bet, pas par le Aleph.
Ah bon. Hein,
ça veut dire que, symboliquement, ça veut dire que la parole, c'est-à-dire la pensée, ne peut pas recouvrir la totalité du réel. Ça veut dire que la réalité, la vérité, est toujours au-delà de ce qu'on peut en penser ou en dire. C'est pour ça que, au jardin d'Éden, Dieu interdit à Adam et Ève de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas pour qu'il y ait studio, hein, j'entends monsieur Onfray qui écrit des âneries, qui les publie, enfin, hein, expliquer que non, c'est un interdit sur la connaissance, c'est pas du tout un interdit sur la connaissance. C'est interdit de ramener la pensée, la vérité, à une dialectique aussi réductrice. La vérité, elle est pire. Dieu la donne plus loin. Elle est plus loin en Dieu. Et je crois que vous donnez l'exemple qui s'appelle Job, le pauvre Job, qui a à choisir entre deux, qui est couvert de malheurs, qui est saint, et il a à choisir entre les deux explications qu'on lui donne de ses malheurs. Il dit, et ses copains très sympas qui viennent lui dire, bon, Dieu dit que Dieu récompense toujours le juste. Donc si t'arrives des malheurs, c'est que tu ne vois pas être aussi clair que tu crois. Et sa femme lui dit, moi je te connais, tu es parfaitement juste, c'est très rare qu'une femme dise ça à son mari. Mais donc ce Dieu, t'as qu'à le fiche à t'en débarrasser. Et Job, il attend que la vérité vienne au-delà de cette problématique. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la même logique.
Dans le même monde.
Et dans la pensée juive, il faut comprendre que donc la manière d'exprimer la vérité n'est pas la même. On ne va pas du tout l'exprimer par une parole, mais par des paroles qui sont écho. C'est-à-dire qu'on fait exister l'idée mentalement en donnant plusieurs points de vue qui convergent, mais qui vont être les talmudistes sont des grands manitous, ça, des vérités qui peuvent être contradictoires. Non, l'idée émerge comme ça et elle n'est jamais saisissable.
Oui, hein. Mais c'est pour ça qu'ils discutent toujours les textes et tout ça. Oui, les catholiques ça. Font pas ça.
Oui, si, si.
Les islam aussi discutent les
textes. Et il fait remarquer que la Bible,
c'est des livres la vérité.
Qui se font écho. Hein. Donc, vous voyez cette notion de vérité, on n'est pas... Alors, quand on est dans l'univers occidental, eh bien... Et l'Église n'a pas échappé au problème. L'Église n'a pas échappé, puisque vous savez, on a fait perdre la foi à des tas de gens en leur servant des preuves ontologiques de l'existence des dieux. Je ne sais pas si ça a jamais converti quelque chose, au contraire. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
C'est vrai.
Du tout, ça, c'est pas du tout la question. Hein, la question, c'est savoir comment est-ce que le petit enfant connaît par l'amour. Comment est-ce que
cette
connaissance par l'amour ?
Pas que.
C'est ça.
Parce que tu as des. Je t'interromps, mais bon, vous avez des enfants qui accéderont doucement vers quelque chose qui les structure et ils vont acquérir une certaine valeur, personnalité, tout ce que tu veux, sans en ayant été dépourvus, parce qu'ils ont pris de parents, par exemple. Alors là, qu'est-ce que tu dis ? Comment ils font ?
Qu'est-ce que je disais ?
Ben, je sais plus. Si je suis intervenu.
On peut y accéder que par l'amour.
Oui, voilà.
Oui, c'est ça.
Voilà. Ça, c'est tout un couplet.
C'est pas par la pensée.
Par l'amour.
Oui, donc, ce mode de connaissance qui est dans la Bible est totalement différent de ce mode de connaissance. Alors, évidemment, l'Église a eu son part de responsabilité, puisque précisément, on est entré dans la logique de la pensée grecque. Dans une logique qui veut répondre à la question, la vérité c'est ça. Alors, dites-moi ce que c'est que la vérité, faites-le moi tenir par des mots. Quand vous dites la vérité est dans la Bible, non, ils disent ça c'est parole de Dieu. Cet événement c'est parole de Dieu. C'est un événement qui est porteur de sens, mais ce sens par définition on ne peut pas l'exprimer, parce que le sens, la vérité est toujours au-delà de ce qu'on fait. D'ailleurs vous voyez, même c'est une conception tellement profonde dans la mentalité juive qu'elle a influencé Karl Marx. Un bon juif invente la dialectique. Non, la vérité, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle est dans un rapport dialectique. Lui, il n'a pas idée de création, il a simplement l'idée d'un mécanisme.
Vous
voyez, donc ça, c'est pour ça que cette question est irritante. Parce que quand on parle de la vérité, on ne parle pas de la même chose. Alors, la plupart des gens voudraient qu'on n'en parle plus de cette histoire de vérité, ça agace. Donc ça casse profondément. Et puis les chrétiens comme moi, on est un peu agacés parce que c'est pas la question. C'est pas du tout la question.
Oui.
Alors, plutôt que de répondre à la vérité, je ne vais pas vous dire ce que c'est la vérité, mais ce sur quoi on peut répondre, c'est comment, actuellement, avec les événements intellectuels qui se passent dans le monde, ce grand déplacement épistémologique qui est en train de se produire, la question de la vérité, l'expression de la vérité, la pensée de la vérité peut se produire autrement. Bon, alors qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde ? C'est Michel Foucault qui disait qu'on assiste à un déplacement épistémologique de grande ampleur. Voilà, on est en train de changer de paradigme. Et le fonctionnement des cerveaux de nos enfants ne seront pas le fonctionnement de notre. Regardez simplement comment la génération ordinateur fonctionne intellectuellement. Ça me fascine beaucoup de voir les gestes mentaux qu'ils accomplissent et que j'ai beaucoup de peine à accomplir moi-même. Tous, si vous avez fait cette expérience, vous avez tous fait l'expérience de ça. C'est une génération qui, un peu comme la Bible, a tendance à penser globalement.
Et ça, c'est tout.
Et c'est tout à fait extraordinaire, ça.
Quand l'arrivée du téléphone, c'était pareil.
On a fait un cheminement. D'une pensée binaire. La pensée occidentale était une pensée extrêmement linéaire, avec tout ce que ça peut faire perdre, et comme le caractère réducteur de cette chose. Alors, patapoum, dans cet univers, on avait au XIXe siècle, donc la science avait de prétendre en donner des réponses à tout, c'était une question de temps, on saurait tout, un jour on saurait tout, et puis donc toutes ces histoires de Dieu, il n'est pas question de se poser la question de savoir si l'esprit pourrait fonctionner autrement que scientifiquement, selon les normes du scientisme. Et puis patapoum, physique quantique, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Et que l'univers est beaucoup plus complexe qu'on pouvait l'imaginer. Alors, en ce moment, si vous voulez, il y a un mouvement très important, sûrement la chose la plus importante sur le plan de la philosophie, depuis, je ne sais pas quand d'ailleurs, depuis Descartes, hein, c'est le mouvement pour la pensée complexe. Alors, qu'est-ce que c'est la pensée complexe? C'est Edgar Morin, hein, si ça vous intéresse, il y a un très bon site qui s'appelle Chemin Faisant, qui est le site de la pensée complexe, avec Edgar Morin d'un côté et Yves Lemoyne, qui est un spécialiste d'organisation des entreprises. Et donc, ça travaille beaucoup, c'est vraiment très univers, c'est très sérieux, bon, il y a à prendre et à manger, mais c'est très important. Alors, qu'est-ce que c'est l'idée? Très simple, il constate que l'idée de la connaissance traditionnellement, en Occident, dans notre tradition occidentale, c'était que la complexité du monde, hein, on allait le ramener à quelque chose de simple, on allait le ramener à des lois simples qui devraient l'expliquer. Et puis ça, bon, là, alors on n'avait pas l'explication de tout, mais ça allait venir. Et puis on s'aperçoit que finalement, ben, c'est impossible. Plus on avance dans la réalité, plus on s'aperçoit que ça marche.
Donc,
les théories dans le darwinisme, hein, qui prétendaient tout expliquer par sélection naturelle, par la sélection, ben, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que l'univers, la réalité est infiniment plus complexe que ça. Donc, changement d'attitude des intellectuels, l'attitude des Garmorin, c'est qu'on ne va pas essayer de ramener ce qui est complexe à la simplicité, on va accepter le fait que les choses soient complexes, et puis on va essayer d'inventer les procédures mentales pour gérer cette complexité. Voilà. C'est tout à fait différent, vous voyez. Et vous voyez que c'est tout à fait différent, et c'est beaucoup plus en phase avec ce qu'on trouve dans la pensée juive, dans la Bible, où il ne s'agit jamais de définir, mais de faire émerger l'idée par la mise en perspective de différents points de vue. Vous voyez, donc c'est un bouleversement extraordinaire. On assistait il y a quelque temps à un colloque à l'UNESCO sur Darwin. Alors c'était des gens qui se permettaient de critiquer Darwin, parce que vous savez que vous êtes condamné à mort, communauté scientifique, si vous osez dire ça. Et voilà, donc, il faut que vous sachiez, on est dans une véritable dictature intellectuelle, et même dans le domaine de la science. Hein, on connaît un grand scientifique, Académie des sciences, qui s'est fait menacer de se faire fermer son sein, qui se font piquer leurs disques durs dans leurs ordinateurs pour que surtout ils ne fassent pas connaître leurs travaux. Il faut savoir. Ça, c'était une parenthèse. Donc,
vous connaissez ça, Bill?
C'est un scientifique.
Non, c'est pas.
Ah oui, il est connu, hein. Paul de Bell, on peut le nommer, hein. Il est tout à fait connu. Hein. Allez, ça y est, j'ai encore oublié ce que je disais.
Non, bah, Darwin se fait taper sur les doigts, mais bon, si on le remplace par les créationnistes, c'est pas mieux.
Donc cette pensée complexe qui s'impose partout quand même, fait sauter complètement ces schémas qu'on avait dans la pensée occidentale. Et donc il y a une manière. La manière d'aborder le problème de la vérité que je ne vais pas résoudre ce soir, on ne peut plus le penser, il faut comprendre qu'il faut changer nos modes de raisonnement. Alors, le monde change d'autant plus qu'il y a deux autres facteurs très importants. Le premier facteur, c'est la mondialisation. Hein, c'est pour la première fois dans l'histoire de la planète que les cultures, les civilisations cohabitent sur les mêmes aires géographiques. Autrefois, vous aviez des aires d'expansion de l'islam, du christianisme, du bouddhisme, mais tout ça, c'était des univers un peu clos.
Chacun essayait d'empiéter sur le terrain de l'autre quand même.
Mais sur le plan culturel, les relations étaient à la marge.
Ouais. On ne vivait pas
avec des gens qui avaient d'autres modes de pensée. C'est-à-dire qu'on ne vivait pas dans cette situation où, aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est qu'un
mouvement. Quand il y avait des différences,
petit à petit, les modes de pensée sont en train de s'influencer à la racine. Et on commence à voir comment, d'une civilisation à une autre, les modes de pensée sont totalement différents.
Et ça vous rend pessimiste ou pas?
Très optimiste.
Ah non, d'accord.
Franc Dieu, alors je suis optimiste. Mais, le... Donc, le... Qu'est-ce que je disais?
Vous étiez optimiste.
Ce n'est pas l'essentiel de mon propos.
Non, mais maintenant, toutes les cultures se superposent, c'est fouillé.
C'est intéressant, vous pensez par exemple que dans la pensée chinoise, la langue chinoise, il n'y a pas de mot pour dire oui et non. Il n'y a pas de mot pour dire je et tu. Hein, c'est extraordinaire. Enfin, il y a des périphrases, on l'exprime autrement. Mais le je, le tu, la notion d'une personne, ça n'existe pas. Donc, voilà, alors vous pensez quand les missionnaires au 16e siècle sont arrivés en Chine, il a fallu qu'ils traduisent « je suis celui qui suit ». Ça, un chinois, vous pouvez le voyager, c'est fantastique. Enfin, alors, vous voyez, déjà, là encore, ça fait que nos modes de pensée, c'est-à-dire que c'est l'anthropologie de la pensée qui doit changer. C'est pas seulement nos idées, c'est pas simplement les présupposés de nos convictions, c'est vraiment les gestes mentaux que nous faisons en pensant. Ils ne sont pas les mêmes chez un Chinois et chez un musulman et chez un ça. Et petit à petit, donc tout ça va bouger. Et puis, alors, il y a une troisième chose qui est très importante, ça tient à la physique quantique. Et ça tient à cette... c'est excessivement important, si vous voulez, pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Il faut remonter à Galilée. Je n'aurais pas parlé de Galilée
la dernière fois.
Je me répète. Je vous répète. Alors, si vous voulez, à l'époque de Galilée, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre pas du tout que la Terre tourne autour du Soleil. C'est Copernic qui l'avait fait. Et lui, il enseignait au Vatican même. Il enseignait Copernic. Il voulait simplement qu'on en fasse une vérité scientifique. Et donc, on me disait, l'Église qui avait l'esprit scientifique, lui disait, prouvez-le d'abord. Et puis alors, il a fait une preuve par les marées, etc. Et quelques temps après, Kepler a montré que c'était totalement faux. Donc, scientifiquement, il avait tort. Il avait tort, mais il était très irascible, il n'aimait pas qu'on lui dise. Mais ce qui était important, c'est que lui, il voulait que l'astronomie soit une science du réel. Alors qu'à l'époque, l'astronomie, c'était simplement une science du visible. On rendait compte de ce qu'on voyait. On faisait une théorie qui rendait compte de ce qu'on voyait. Il n'est pas du tout certain que Kepler croyait que la Terre tournait autour du Soleil. Il disait, je vois ça, et tous ces événements que je vois dans le ciel, j'en rends compte par une théorie. Mais c'est une hypothèse. Voilà. Bon, Galilée ne veut pas du tout ça, il veut que ça soit... Alors ça embêtant, parce qu'il y a une confusion dans les esprits entre le ciel céleste et la boule céleste, et puis le ciel de Dieu, etc. Donc, d'un coup, si vous voulez, on sent bien, le cardinal Bellarmine sentait venir ça, sans pouvoir l'exprimer, c'est que, tout d'un coup, il allait vous mettre devant un monde à un seul niveau de réalité, un monde réduit à l'étendue. Voilà. Ça posait un gros problème, parce que jamais on n'avait eu ça, idée de ça. Pour les anciens, pour les médiévaux, il y avait le monde supraterrestre et le monde sublunaire et supralunaire. Il y avait deux ordres de réalité. Oui, pour Platon, il y en avait bien davantage. Hein. Il y avait la voûte céleste avec toutes les théories de personnages, les anges, les dominations, etc. Donc, ça, c'est cet univers à degré de réalité ne pouvait se penser que par le symbole. C'est-à-dire, on partait du principe que l'univers a une unité, mais qu'elle présente des niveaux. Mais que cette unité est telle que les niveaux peuvent s'exprimer l'un par l'autre. On peut comprendre un niveau. C'est le principe des paraboles. Jésus explique les choses du ciel par un grain de sel levé, par un pêcheur qui trouve une perle, etc. Donc, vous voyez, un schéma. Le symbolisme ne peut plus fonctionner, si la pensée symbolique ne peut plus fonctionner, une pensée qui fonctionne à deux vitesses, la religion ne peut plus s'exprimer. Parce que par définition, la religion postule qu'il y a un monde terrestre et puis un monde divin, et qu'on connaît le monde terrestre à travers le monde divin. Et donc, cette vision d'un monde à un seul niveau de réalité, ça condamne à terme la religion. Et de fait, à partir de Galilée, l'idée religieuse recule sans arrêt, parce qu'elle ne correspond plus au schéma mental des temps modernes. Hein. Et donc le chrétien se réfugie dans un fidéisme, mais c'est tout ce qu'on peut faire. On pensait que la religion allait disparaître, que c'était un vestige de son passé, et ça en avait tout l'air. Jusqu'au jour où, découverte de la physique quantique. Et on s'aperçoit que la réalité n'est pas homogène. Il y a un niveau quantique, il y a un niveau de régularité déterministe, hein, celle que le niveau de, qu'explique la physique de Newton, hein, et puis il y a un univers optique, l'univers des fluctuations quantiques, etc. C'est-à-dire, entre la physique quantique et la théorie de la relativité, on découvre un monde qui est à nouveau, un monde à degrés de réalité. Un monde qui ne peut plus penser d'une façon homogène.
Alors là, on vient vers Dieu.
Alors, c'est pas ça exactement. On ne va pas vers Dieu. Vous pensez peut-être au livre de Jean Guiton, il a écrit Dieu et la science. Et là, il disait carrément, bon, c'est fantastique, vous avez le Big Bang, vous avez le monde quantique, et puis au-delà du mur de Kant, vous allez trouver Dieu. Non, c'est pas si simple que ça, mais c'est beaucoup plus intéressant. Ça veut dire que la science ne va pas prouver Dieu. D'abord, si elle le prouvait, ça ne serait pas Dieu, par définition. Voilà. Mais ce qu'elle a vu, la science, c'est qu'elle va obliger les gens à penser à nouveau
en articulant différents
modes de pensée.
Ouais.
Et ça, c'est très important. Ça rend à nouveau crédible un schéma de fonctionnement intellectuel qui est tout à fait cohérent avec la pensée symbolique et donc ne va plus du tout gêner la religion, le discours de la pensée religieuse. Là, vous voyez, quand les physiciens aujourd'hui, ils n'utilisent pas le mot symbole, mais quand ils parlent de modèle, il y a un scientifique là-bas, après tout, ils prêchent des lois dans un domaine connu, compris, et ils essaient de l'appliquer à un domaine, de la fluctuation quantique, hein. Voilà. Et puis on voit si ça marche. Et puis souvent ça marche, parce que si ça ne marchait pas, on n'aurait pas d'ordinateur, on n'aurait pas de tas de choses. Vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez donc, on est, le problème de la vérité, il se pose aujourd'hui dans un monde intellectuel qui est en pleine mutation. Qui est en pleine mutation et où. Extraordinaire,
oui.
Ça.
Bon.
Alors,
bon,
les
il y a du pain sur la
planche. J'ai
pas répondu
au temps, peut-être, Robert.
Non, mais c'est bon.
Je te sens impatient.
C'est bon. Non, mais c'est bien.
Voilà.
C'est un autre point de vue.
Hein. Bah, j'arrête là parce que j'ai peut-être des questions.
On va d'abord terminer le cycle, après des questions.
Voilà.
On verra si les gens veulent manger ou poser des questions.
Ou en mangeant. On peut poser des questions en mangeant. Oui, hein.
Ça, c'est
bon, là, on partage le même. Alors. Pour illustrer mon cheminement, parce que comme je l'ai dit au départ, la vie, parce que pour moi c'est pas loin de la pensée, de la vérité, j'ai pensé que finalement une belle. J'ai pris là un Tsenet, n'est pas perdu.
Oui,
n'est pas perdu, c'est une, l'auteur, c'est Marie.
Denise
de Bonal, prix Molière.
Oui.
Ouais.
Peut-être
que j'ai rencontré, qui a dîné ici d'ailleurs, et que finalement, d'abord, elle était la chercher, parce que dans une association, Françoise, elle a participé à l'organisation de cette soirée-là avec Madame Denise de Bonal. J'avais imaginé, c'était toujours de cette même recherche en disant, vous arrivez vers les choses réelles à partir des gens, de la réalité, quoi, de ce qu'on vit. C'est pas une structure personnelle, mais c'est par rapport à ce qu'on vit qu'on peut trouver la vérité, enfin, peu importe, ce qu'on vit.
Se diriger vers quelque chose.
Ce qu'on vit. Je crois que c'est déjà ça qui est important. Et cette dame, alors, c'est très intéressant à dire, parce que quand j'ai été la voir la première fois, très qui arrive à dire, oui, vous êtes chrétien. Je n'ai pas dit un mot, hein.
Alors pourtant, tu sentais quoi?
Je demandais. Je l'ai ramené ici, et puis on a discuté. Je dis, écoutez, vous permettez que je publie ce texte là?
Oui.
Ce petit texte, oui. C'est une pièce. Faire rien que de petites scénettes comme ça.
Oui, oui.
Tu la connais?
Non, mais je connais un recueil comme ça.
Et ça se passe sur l'été tout gare.
Il
y a différentes personnes, et tu vois. C'est comme c'est un peu presque comme Alice au pays des merveilles. Les gens qui passent, c'est pas une scénette de
réalité. Voilà, c'est ça.
Toujours, et tu vois toujours des gens qui ne se comprennent pas. C'est étonnant.
Ils se croisent,
Et moi, aujourd'hui, j'ai la conviction, et ce sera le sujet de nos travaux futurs, pratique, que les gens, nous ne comprenons pas. Ça, c'est sûr.
Mais c'est sûr.
on ne s'entend pas du tout. Parce que finalement, il n'est pas. Et j'aime bien cette phrase de qui est de l'évangile. D'ailleurs, vous voyez et vous ne voyez pas. Vous entendez et vous n'entendez pas. Et ça, c'est capital. Parce qu'on entend toujours à partir du schéma mental qu'on a.
Et comment veux-tu faire autrement?
Attends, je vais arriver. Attends. Mais dis-toi que tu es venu, tu vas avoir une réponse.
Ah, il faut que je me le dise.
Non,
ah non.
Non, mais il faut que tu écoutes. Tu entends tout en entendant. Et en attendant.
Et en attendant.
Bon, alors donc cette personne est venue. Et alors quand je l'ai fait. Alors j'avais déjà. J'ai découvert des choses assez marrantes. Parce que je l'ai. L'idée c'était par rapport. On l'a fait aussi. Le metteur en scène qui avait mis cette pièce en œuvre. Oui. Le théâtre. Parce qu'on a été le voir en groupe. J'avais dit ce serait bien que ça se réunisse.
Oui.
Le metteur en scène et l'auteur.
Et Denise, bah oui.
Quel malin on a pris. Mais là déjà, vous voyez, rien que
pourtant,
réunir un metteur en scène et l'auteur d'une pièce, c'est
une
c'est
la même vision.
Bah, bien sûr. En plus de ça, l'auteur veut en faire sa pièce.
Bah, voilà, c'est ça, il y a une rivalité. Une
et puis, elle me disait toujours que le metteur en scène. Là que les metteurs en scène n'aiment que les auteurs morts.
Pas de contestation.
Et alors on l'a interviewé.
Traduttore.
Puis après on me dit. Même par rapport à ça, hein, par rapport à ce truc-là, j'ai dit, je voulais toujours passer par derrière.
C'est-à-dire
de vous voulez toujours passer par derrière. Vous voulez pour aller derrière la vitrine.
Aller par derrière.
Pourquoi vous voulez aller voir derrière? Ça? Non.
C'est elle. Alors, c'est ça ou le metteur en scène?
Non, c'est elle.
Elle.
Oh, mais entre eux, bisous.
Ah oui. Bon,
attends,
oui. Mon coco, ma coco.
On rigole. Alors, mais pourquoi vous voulez aller derrière? Et alors quand? Et c'est ce qui m'étonne encore le pire maintenant. Elle traverse ça, et ça m'est convaincu par la suite. Elle a écrit cette pièce, elle ne voyait même pas ce qu'elle avait écrit. Non.
Bah c'est une illusion.
Et j'ai encore des autres exemples. J'ai quelqu'un qui m'envoie un livre.
C'est celle qui avait vous étiez chrétien. Pardon? C'est ça? C'est celle qui avait vu que vous
tout de suite en
chrétien. Oui. Et elle ne voyait pas ce qu'elle avait écrit.
Non.
Elle a écrit ça comment? Ben non, mais bon...
Ah oui, ben je sens le souffre. Non.
Ou alors, elle t'a dit ça peut-être pour te dire il y a quelque chose derrière, mais
non, c'était sur la fin. Elle a dit pourquoi j'ai mis l'infirmière.
Ah d'accord.
Voilà.
D'accord.
Voilà. Pour elle, c'était bien. Et j'ai encore, enfin, je, si vous voulez d'autres exemples, j'ai reçu dernièrement le livre de quelqu'un comme un beau cadeau d'elle, parce que tu as fait un cadeau dans le livre parce qu'elle était en part dépression. Et puis elle m'envoie un livre qui allait bien. C'est traité de la reine. Vous connaissez la reine de Troya, Henri Troya? C'est le modèle parfait de solipsiste, de narcissique.
Ah oui, Henri Troya, il écrit encore.
Et la personne qui m'a envoyé, pour me faire plaisir, m'a envoyé sur le modèle exactement que dont elle souffre. Elle est narcissique à l'extrême. Elle voit pas ça. Elle le voit pas.
Elle le lit, mais...
Mais si, elle en revient, ça se confirme. Elle le voit, mais elle ne voit même pas le drame qui se joue. C'est terrible.
Ben oui, mais...
Et ça, c'est absolument... Et vous pouvez l'expérience tout le temps.
On voit la paille qu'il y a dans l'œil de son voisin et quoi la paille qu'on a dans le sien. Hein, c'est souvent quoi.
Alors, et en plus, ça, c'est une personne que nous avons en commun. Tu as situé le mot. Et Gabriel n'est pas là. Elle se repose.
Elle peut
pas. Elle
a pleuré. Ah
oui. Ça pleure.
Alors, elle a écrit elle-même en jeunesse un bouquin. Tu l'as bien fait. Narcisse.
Elle a été où?
Jeunesse. Et en direct là, genre, on va.
Elle connaît bien le sujet puisqu'elle est narcissique.
C'est ça. Bon. Alors, on va jouer cette petite scénette, oui. Si va bien, Antoine. Elle est pas là pour moi.
Ah, c'est maintenant, ça a tenu jusqu'à maintenant.
Voilà. Enfin, il n'est pas, il est pas tellement heureux pour le faire, mais il a quand même du courage, c'est la
mais
première
oui,
fois qu'il
le fait. Oui, mon chou, et nous aussi, on a du
alors,
courage.
Alors, vas-y.
Allez, il avait fait un avion.
Alors, l'écran, d'ailleurs, vous, comme le passé a troublé votre frère, il a accepté de le faire, et vous, vous n'avez pas accepté de le faire.
Voilà.
Donc, voilà.
Vous n'allez pas ricaner, hein.
Toi, tu as le droit de ricaner, toi.
Oui.
Et toi, Léo, tu restes tranquille. Vas-y. Je prends les trois coups. Un,
allez.
Deux, trois.
Qu'est-ce que je ferai là-bas?
Tu regarderas la nature.
La nature?
Oui, la nature.
C'est quoi la nature?
Comment, c'est quoi? C'est tout ce qui nous entoure. Les arbres, les montagnes, les papillons, les rivières, la lune.
Le vent?
Le vent? Comment tu pourrais regarder le vent?
Quand il passe.
Tu le vois passer, toi?
Dans les feuilles, sur le toit.
Oh, eh bien, si tu as des yeux à regarder le vent, regarde-le.
Et les moutons?
Bien sûr.
Et les loups?
Là où tu vas, il n'y a pas de loups.
Ils sont où, les loups?
Ils sont là où il doit y avoir des loups.
Mais ici, il y en aura. Tu regarderais?
Non, ils n'aiment pas ça. Et ne perds pas de temps. Rentre au foyer avec les autres.
Si les autres ne rentrent pas?
Ils rentreront.
Pourquoi?
Parce qu'ils auront peur des loups.
Et si moi je n'avais pas peur des loups?
Là où tu vas, les loups sont interdits, donc tu n'auras pas peur.
Et où est-ce qu'ils ne sont pas interdits?
Là où tu ne vas pas. On va en finir avec les loups.
Et les nuages, c'est la nature?
Bien sûr.
Et la pluie?
Naturellement, puisqu'elle fait pousser la nature.
Et les cailloux?
Quoi, les cailloux?
Cailloux avec un X, je les regarderai?
Ah non, c'est les cailloux. Oui, tu les regardes.
Oui, mais si je les regarde et les autres continuent à marcher, je reste tout seul.
Tu n'es pas obligé de t'arrêter. Tu les regardes en tournant la tête.
Comme ça?
Oui, comme ça.
Mais peut-être je me tiendrai contre quelqu'un.
Là où tu n'y vas, là où tu vas, il n'y aura pas quelqu'un.
Ils sont où alors?
Qui?
Les autres quelqu'un?
Chez eux.
Dans leur maison?
Oui.
Ils sont au chaud dans leur maison?
C'est question rien pour vous déstabiliser. Oui, ils ont chaud.
C'est pour ça qu'ils ne sortent pas.
Qu'est-ce que ça peut lui faire? Oui, c'est pour ça, là.
Et les barrières?
Alors?
C'est la nature?
Oui, c'est la nature.
Même si elles sont cassées?
Et pourquoi elles seraient cassées, ces barrières?
Je ne sais pas, je ne suis pas encore là-bas.
Et si tu ne sais pas, reste tranquille. Et ne t'avise pas de casser les barrières. Tu veux?
Comment s'est fait la nature?
Qu'est-ce qu'il cherche encore? Explique-toi, qu'est-ce que tu veux dire?
Qui est-ce? Qu'est-ce qui a fait la nature?
Ah, maintenant une question bien riche. C'est Dieu, pardi.
Toute la nature?
Bien sûr, n'allez pas en faire que la moitié.
Il y a des personnes pour l'aider?
Personne.
Papa, il n'aurait pas dit?
Le bon Dieu n'a pas besoin de ton père. Toujours les questions vivantes.
Mais si papa, il aurait voulu lui donner la main?
Ça ne se fait pas.
Et il a aussi fait les barrières?
Qui?
Dieu?
Non, les barrières, c'est fait par les hommes.
Et les hommes, je les regarderai aussi?
Non, non. Pas les hommes, tu m'as comprise? Surtout pas les hommes. Pas les hommes.
Oui, les hommes, c'est pas naturel.
Tout ce qu'on te demande, c'est d'être bien poli avec les infirmières.
Le train direction de Vierzon, quai 14.
Ouh, bravo! C'est bien, mon chéri. Parfait. Et puis, Sophie a une belle voix.
Mais tu pourrais rester là?
Oh, oh. Il a fait son boulot.
C'est,
hein.
C'est important. Non, pourquoi je fais ce train? Je ne sais pas, c'est que... Alors, je vous donne, ce n'est pas la réaction de quelqu'un en disant, j'ai fait l'erreur à quelqu'un. Je me dis, oh, C'est normal, hein. Ce petit gamin, il n'est pas tout à fait normal, hein.
Oh,
c'est un demeuré.
Dis pourquoi, et pourquoi maman, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, ils
disent tout ça, les enfants.
Et pourquoi ci, pourquoi ça.
Alors, non, mais c'est pour dire.
Il est très curieux. Il est chiant, mais.
C'est pour dire. Voilà. Non, mais ce que je voulais dire, mais c'est ça, c'est vrai aussi pour Thibault, pour Benoît, pour les petits enfants, c'est le plus important. La grande, là où effectivement, aussi bien l'évangile que la physique quantique ou la science actuellement, nous assistons là exactement à la confrontation entre la séparabilité des choses et la non-séparabilité des choses. Or, la réalité, rien n'est séparable. Nous ne pouvons pas traiter aucun élément séparément. Tout n'est que phénomène, et il n'y a que la totalité qui est un. Voilà. Et tout est en auto, comme c'est rien n'est séparable, tout ce qui évolue influe directement tout.
Il y a plus comme dans les chromosomes, l'ADN.
Le monde est toujours en création.
Il
est toujours en autogenèse. C'est toujours.
De l'infiniment petit à l'infiniment grand, d'ailleurs.
Ce que nous vivons actuellement, nous sommes en train de transformer certaines choses de nous. Voilà. Et nous transformons le monde en ce moment. Mais c'est sûr. Voilà. Et c'est ça qui est. Et la vision occidentale, par Descartes, c'est arrivé d'ailleurs par l'encyclopédie, quoi.
Ah ouais. On le transforme à tout petit peu.
Mais il a, mais c'est toujours
c'est,
le monde.
C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité.
Attends, je veux dire que finalement, si la vision que tu as de la réalité te transforme d'une certaine façon, et la façon dont tu transformes, forcément, tu transformes le monde, la réalité aussi. Donc, et ça, c'est un phénomène. C'est inséparable. Et ta pensée n'est pas séparable de ton corps. Ton corps n'est pas séparable de la pensée. L'inconscient n'est pas séparable du corps du conscient. C'est le conscient qui nourrit l'inconscient. Et l'inconscient nourrit le conscient. Et ton inconscient.
Oui, mais.
Voilà, rien n'est séparable. C'est ça. Alors, une fois qu'on a admis ça, c'est-à-dire que finalement, ce qui est en premier, c'est la vie. La vérité première, c'est la vie. Et c'est pas Dieu d'ailleurs. Hein? Parce que, alors, maintenant, si on revient aux évangiles, par exemple, par rapport, et c'est ça le propre du christianisme, Jean, il dit, au début était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et au début était le Verbe. Et la science actuellement arrive à la même chose, c'est pas Dieu qui est au début, c'est le Verbe. Et le Verbe, c'est la vie. Et actuellement, les scientifiques, ils en arrivent là, même s'ils font toutes les expériences et réduisent toutes les relations en relations, de relations en relations, à la fin, on arrive, il y a quand même, au début, avant que le temps et l'espace, et même si on supprime le temps et l'espace, l'énergie, ça revient à un point minimum, infini. Mais avant ce point, il y a forcément la vie.
Alors, dans ton histoire de tout qui se mélange comme ça, que le tout est dans tout, tu es un disciple de Conrad Lorenz, c'est un papillon au Japon qui bat des ailes et ça transforme.
Bien sûr, c'est bien là, je te dis que finalement.
Parce que c'est en fait le modèle qui était trop simpliste. Si vous rajoutez des équations, ça devient stable.
Ça vient, oui. Ben
sinon,
oui.
Il n'y aurait plus l'œil rouge de Jupiter.
Mais où est-ce que ça nous mène,
ce serait tellement instable qu'il aurait disparu depuis longtemps.
C'est une hypothèse, c'est pas intéressant.
Tu vois bien que finalement, actuellement, si on modifie, par exemple, si les abeilles venaient à disparaître.
Oui. Passons mon santo.
Là, on disparaît, il n'y a plus de pollinisation, il n'y a plus de nature, il n'y a plus rien.
C'est tout rien. Et donc les hommes actuellement, et c'est pour ça que finalement, comme dans les hommes, quand ils commencent, ils voient que rien n'est séparable, et en premier était la vie, et c'est ça la vérité. Et finalement, tout ce qui touche à la vie transforme la totalité. Et quand tu vois que les hommes aujourd'hui se permettent de transformer la vie, de toucher à la vie, que finalement, quand tu arrives à je sais pas moi, on va dire maintenant je vais faire du blé non reproductible,
Et avec de la paille, pour ne pas avoir trop de paille, avec une portée de cette hauteur-là. Non. C'est incroyable. Tu es sûr que finalement, ce changement-là aura forcément des incidences sur toi. Tu ne peux pas, ça ne peut pas avoir ton changement. Ou si ça a des incidences sur ceux qui sont à côté. Parce que, et maintenant, la science va aussi, finalement, la création. Quand on dit la création, qu'elle dit. Même tous les physiciens, croyants ou pas croyants, ils disent. C'est d'une telle précision d'équilibre de tous ces phénomènes que c'est impossible qu'il n'y ait pas un dessin préalable à ça.
Enfin, créationniste.
Non, c'est pas ça. Il n'y a pas cet équilibre, il est.
Tout est prévu, même les erreurs, même
attends, les non, mais il ne faut pas être créationniste, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas le dessin, n'est pas. Nous, on est actuellement, c'est pas dessiné. On est capable de disparaître. L'homme est capable de se faire disparaître. Donc le dessin, on sait qu'il est le dessin.
Ah, on est capable de se faire disparaître, oui, enfin,
oui,
c'est une...
Voilà, enfin, actuellement, dis, l'homme, des techniques, l'homme est capable de se détruire. Il y a aujourd'hui, il y en a combien qui sont capables de détruire entre nous?
Ah ben, entre nous...
Soi-même. Il y en a combien qui se détruisent soi-même? Donc, la première chose, donc, finalement, quand tout est interrelation, et on arrive à la première chose, que la première... Finalement, pour qu'il y ait non-séparabilité, il peut y avoir non-séparabilité que dans la mesure où c'est séparé.
Oui, postule la vie, oui.
Ouais, voilà. Et, là, et donc, finalement, on est, finalement, maintenant on arrive dans cette idée-là, pour la création au début, on a créé déjà temps et l'espace, c'est déjà à notre niveau, on a la notion du temps et l'espace. Mais maintenant, en physique quantique, on sait à d'autres niveaux, le temps et l'espace n'existent pas. Tout ce qui est dans l'instant, ça existe. Finalement, ce qui afflue l'un, automatiquement afflue l'autre. Ça n'existe pas, le temps et l'espace. Dans la vision aujourd'hui, on dit, d'abord, il faut créer. Donc, il faut déjà créer l'énergie, il faut créer déjà le temps et l'espace.
Oui.
Donc, il y a déjà ça, qui est, à notre niveau, il y a le temps et l'espace. En créant les espèces, le temps et la vie, c'est toujours une relation entre un pôle positif et un pôle négatif. Et ce qui se passe, c'est entre... Donc, c'est un monde trine, c'est pas un monde binaire, comme aujourd'hui. On existe dans un monde binaire, c'est-à-dire oui ou non, 1 ou 0, hein, voilà, c'est tout. C'est comme ça ou c'est pas comme ça, et ça a commencé avec l'encyclopédie, on a commencé à vouloir définir tous les concepts. Voilà, c'était le début de la logique, on voulait, voilà.
Bah c'est pas là au déshonneur de l'homme.
Des mais je veux dire, c'est une vision, c'est pour ça qu'on arrive, on arrive à des impossibilités, on voit que c'est pas juste, c'est pas possible. On voit que c'est pas bien possible.
Mais si l'homme ne peut s'avancer dans la vie de siècle en siècle, de génération en génération,
maintenant, si tu prends comme vérité en disant il y a une vérité, la vérité c'est la vie.
Oui.
Et la vérité c'est une autogenèse. Alors elle est toujours en autogenèse. Toute vie est en autogenèse. Un enfant il devient. On le sait aujourd'hui. On devient déjà de ce qu'ont vécu les parents. Mais oui. Une fois que tu as admis ça, la façon de ce qui est vécu influe directement sur l'enfant. Et la façon dont vive l'enfant, quand il le voit en autogenèse, c'est tout à fait, il le voit l'enfant différemment. Vous comprenez ce que je veux dire? Non? C'est trop compliqué. Non? C'est comme le... Alors la vie, c'est la vérité. C'est comme... Faut la voir comme ça. C'est comme le vélo. Vous ne pouvez pas l'apprendre. Vous pouvez le décrire, l'encyclopédie, tout ce que vous voulez, comme vous roulez sur vélo, vous ne pouvez jamais le décrire comme rouler en vélo. Il y a uniquement, quand vous mettez l'enfant sur un vélo, il commence à rouler, qu'il sort à rouler. À ce moment-là, tous les phénomènes sont là. Parce que finalement, il ne peut pas intégrer, tu ne peux pas intégrer, tu ne peux pas expliquer par la pensée et ce qu'est la vérité. C'est parce que c'est ça à quoi butent tous nos scientifiques. Et finalement, la vérité n'est pas réservée aux scientifiques. Au contraire, tant qu'ils voudront aller vers la vérité, et c'est ça qu'actuellement le danger du totalitarisme des scientifiques, c'est qu'ils veulent définir la vie. Et ça, c'est impossible. Parce qu'ils sont eux-mêmes la vie. Parce que pour découper la vie, il faut qu'ils se découpent eux-mêmes.
Voilà. Je ne sais pas si c'est leur but, vraiment.
J'aurais quand même
fait. Pour prendre l'exemple dans la physique quantique, l'observateur modifie
L'observation.
De toute façon, l'expérimentateur modifie l'expérience. De par la manière dont il fait l'expérience.
Rien que l'observateur, déjà, rien que il s'en met trop neutre.
Voilà. Et en plus ça, il ne trouve que ce qu'il veut chercher, trouver. Genre, là, notre scientifique.
J'aurais quand même quelques petites remarques. D'abord, par rapport au début de l'évangile de Saint Jean, juste après, il est bien mis que et le Verbe était Dieu.
Donc il n'y a pas auprès.
Oui, mais et aussi, mais c'est pas le premier.
Attendez,
le Verbe.
Mais il fallait.
Deuxièmement, le énarché, le commencement, fait référence à Bréchit. Dans la Genèse, qui ne signifie pas au commencement, mais en premier lieu, et en premier lieu pour la création entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que Dieu était avant, et en fait, il n'y a pas de commencement par rapport à ça.
Non, non, c'est pas juste. Exact. Mais attends, ça, c'est votre vie. Et enfin, il ne faut pas prendre non plus les écrits humains pour la vérité. La vérité est au-delà des écrits humains. Faut pas, c'est quand même une grande prétention de vouloir prendre. De croire
mais
que
les écrits humains tentent de retranscrire une expérience.
Attends, je suis d'accord. Mais y a
l'expérience de la vie, si j'ose dire.
Mais attends, tout ce que j'ai dit, la jeune femme qui a écrit Narcisse, elle a transmis son expérience. Voilà. C'est ça sa vérité. Mais c'est pas la vérité, ça. La vie te précède, tu ne fais que rentrer dans la vie. Tu ne peux pas dire que la vie est avec toi.
Oui, mais on ne peut pas en revenir toujours à la vie, la première.
Mais si, mais c'est l'essentiel.
Oh, bon, moi, ça me...
Ah ben, ça ne te convient pas, mais c'est ça.
Non.
Alors, maintenant, je terminerai à ce moment-là. À ce moment-là, je dirai une belle chose.
Il y a quelqu'un qui veut faire.
Voyons. Juste pour illustrer, apparemment, la vérité a besoin d'être appropriée par celui qui va la porter, parce qu'elle a plusieurs fonctions. Je pense qu'elle apparaît, elle disparaît souvent aussitôt, sous forme de révélation. Un exemple, en Afrique, par exemple, j'observais des modes d'éducation sur ce qui est réel, donc ce qui va faire vérité pour le groupe. Un enfant, par exemple, va être... le père l'emmène dans la forêt, dans la savane, là, il lui montre, alors un animal pince, l'enfant questionne, oui, papa, quel est cet animal? Le père répond... Bon, là, en l'occurrence, c'est un hippopotame qui passe, mais là, le père va dire, voilà, ça, c'est une girafe. L'enfant s'approprie cette vérité qui vient de l'autorité du père. Hein. Et sur le chemin, une fleur, il lui donne un nom qui correspond, en fait, à une autre fleur, etc. Ouais. De retour au village, l'enfant va transmettre ce qu'on lui a transmis, et se trouve confronté à une forme d'exclusion, parce que tout le monde va lui dire, non, mais pas du tout, ça, c'est pas une girafe. Inversement. Donc, pour que cette vérité fasse clan, fasse unité, ou peut-être harmonie, je pense, c'est peut-être sur ce plan-là, l'enfant a appris à désapprendre. Il a appris, on lui a montré l'erreur, on lui a montré le faux. Alors, le bon grain dit vrai, gros, très bien. Et pour lui, c'est un spectacle ouvert. Plus qu'un spectacle, il le vit en termes d'émotion, parce qu'il est dans la découverte. Je pense que ça fait partie de dîner, j'entends. La question pour intégrer déjà la famille, et puis après le groupe. Et que ces éléments-là perdurent, parce qu'ils font l'essentiel de ce que une tribu en dépend exclusivement. Donc souvent, apparemment, dans ce type de cas... La vérité n'est pas exactement celle-là. Dans nos sociétés, maintenant, d'autres vérités prennent une place à des vérités qui sont peut-être déjà pas bien stabilisées, apparemment, par la technique. On peut parler de la mathématique quantique, j'en parle un exemple. C'est enfin, une équation, plutôt, une démonstration d'équation. Alors, moi, c'est pas du tout mon champ, hein. Je retiens que le verbe. En clair, bon, on sait qu'une tartine beurrée tombera. Forte chance du côté beurré. Maintenant, on sait également qu'un chat que l'on jette par les pattes du premier étage lui tombera sur ses pattes. Alors, la mécanique quantique consiste à accrocher la tartine sur le chat et de jeter tout ça en même temps. Alors, la réponse est quantique. Hein. Mais elle est existante.
Et on obtient l'antigravité.
C'est encore une
antigravité.
Vous avez toujours la même structure qu'en disant la pensée. Nous, la vie, on peut la penser. La vie, vous ne pouvez pas la penser.
Mais je vois pas pourquoi. Moi, je vois pas pourquoi on peut pas penser la vie. Mais moi, je suis vraiment en carte.
Parce que la vérité est au-delà des concepts.
Voilà. Tu peux pas mettre la vie en concept. mais en conserve. Mais tu penses. Attends, je vais te dire simplement une chose. Alors, une phrase de Max Planck, qui est un des grands...
physiciens.
Qui est en discussion avec Einstein. Einstein, qui était dans cette vision de trouver la formule qui faisait unité sur la totalité. Et que la physique quantique est arrivée, il n'est pas, vous ne pouvez pas, vous n'y arriverez jamais. Et finalement, parce que finalement, tout n'est que... il faut remplacer la rationalité par la relationalité. Voilà. Tout est relation.
C'est pas homme-femme.
Pardon ?
C'est la définition plutôt homme-femme. On dit que la femme est relationnelle et l'homme est rationnel.
Non ! La femme n'existe pas sans l'homme.
Oui, la femme.
Voilà.
Et c'est complémentarité.
Non, c'est pas complémentarité.
C'est une structure mentale qui définit un petit peu.
La base. Tu peux dire que finalement. Prends l'exemple. Écoute. Pose des questions. Prendre l'exemple des...
Par exemple, un pôle nord et un pôle sud n'existent pas sans la relation électromagnétique.
Je veux dire...
Sans le magnétisme.
Sans le magnétisme.
Les radiologues expliquent que nous sommes que des successions de moments, nous sommes des moments magnétiques, ne serait-ce que les uns par rapport aux
autres. Attends, mais arrête pas. Écoute, pour le moment, si chacun veut donner son... Écoute simplement une chose, et puis après, on en discutera. Mais... Je veux dire que finalement, on n'est pas binaire. Je veux dire, complémentaire, c'est déjà binaire. C'est un qui complète l'autre. C'est pas ça. On est trine. On n'est pas trinitaire, on est trine. C'est-à-dire que...
Oui.
Bah, tu le prends.
La trine.
Oui, la trine, ça existe aussi.
Mais ce n'est pas exactement la même étymologie.
Mais c'est une façon d'étourner la vérité. Hein.
Oui.
Donc... je veux dire que
on écrit.
La base de l'humain,
oui.
C'est le pôle masculin et le pôle féminin. D'ailleurs, même chacun d'entre nous n'existe que dans la relationnalité. Il n'y aurait pas de relationnalité, nous n'existerions pas. Parce que c'est un phénomène. C'est-à-dire, même la pensée, vous n'existez pas si vous n'avez pas un cerveau gauche et un cerveau droit. Si vous n'êtes pas, anima animus.
Hein? Puis on a le féminin, le masculin.
Oui, c'est ça que j'ai dit. Voilà. C'est ça.
La dominance.
Voilà. Maintenant, et c'est ça qui fait la fécondité. La fécondité vient du fait que finalement, maintenant, si sans rapport, maintenant, c'est pour ça que finalement, si on fait un rapport plus, c'est un fécond. Ou moins, c'est un fécond. Donc la base de l'humain, c'est déjà homme-femme. Et tu ne peux pas dire l'homme. C'est pour ça que la notion des droits de l'homme...
C'est pas une complémentarité, ça.
Pardon ?
C'est pas une complémentarité,
ça. Non. C'est la base. C'est comme tu dirais, le pôle nord est complémentaire du pôle sud. Tu veux dire ? Ça veut rien dire.
Mais sans le magnétisme, le pôle nord n'existe pas. De même que le pôle sud. Parce qu'il n'est...
Voilà.
C'est de là le processus de bien
au Il n'y a rien pour les définir.
Non. C'est finalement parce qu'il y a l'homme qui peut définir la femme.
Au contraire.
Et vice versa.
Voilà. Pardon. Oui. Voilà. C'est la base. C'est pour ça qu'il faut admettre, si tu vas dans cette vision-là, et que c'est ça qui est en autogenèse, si tu mets... Et il y a donc toutes les relations, et il y a des relations qui sont infécondes et qui sont même destructrices. C'est ça qu'il faut que l'homme comprenne, que finalement, des relations, même entre hommes et femmes, peuvent être destructrices. C'est pas parce que c'est homme-femme que c'est constructeur, c'est fécond.
Voilà.
Bah,
oui, on voit ça.
Et alors c'est là qu'on voit que c'est la relation d'âme, c'est-à-dire que l'un abandonne sa polarité, hein, renonce à sa polarité pour affirmer sa polarité, et qui fonctionne à la polarité de l'autre. C'est pour ça qu'on peut dire il forme un seul corps, ça fait un seul corps. Le corps, un seul corps, une seule âme, enfin peu importe, l'âme c'est anima, c'est la vie, hein, c'est le souffle de vie.
Hein. Donc, c'est la lutte, l'anima.
Non, anima.
Anima, pas animus, j'ai vu.
Non,
oui.
Non, c'est pas la lutte. Âme, je parle.
Dans le combat pour la vie,
Non, on ne te la posera personnellement.
Alors. Et le partage.
Attends, là, il vient de chercher. Il est 10h.
D'accord, hein. Pas d'accord, les deux, mon général, mais on partage. Moi, je veux entendre la question.
Alors, pose la question.
Oui. Non, enfin, je fais un prolongement.
Non, mais tu poses la question.
Alors, l'animal est-il bien, ce qui définit la part de lutte qui se trouve souvent, que l'on dit féminin, souvent. Donc, l'anima, est-ce bien cette part qui permet de lutter contre ce qui fait la force de vie, contre la mort, notamment, ce qui fait...
L'anima, je sais pas, moi. Je prends de ça chez Jung, alors je sais pas, il parle de anima animus.
Oui.
C'est le yin ou yang. Même dans les Chinois, ils ne comprendraient pas. Est-ce que le yin va combattre le yang? C'est là qu'il devient destructeur.
Ce sont des opposés complémentaires.
Mais ce n'est pas des opposés.
Et selon la relation, ça peut aboutir à l'harmonie ou à la disharmonie. Ben oui, ben c'est ça. La pensée chinoise, c'est ça.
Ah ben, je parle yin et yang. Non.
Nous sommes bien...
par la pensée chinoise, je dis dans le parama anima animus, c'est yin et yang. Voilà. Oui, mais il n'y a rien qui est en dehors de yin et yang.
Oui, mais yin et yang, ce sont des opposés complémentaires. Ça peut être sur le principe, justement.
C'est féminin masculin.
Parce que ce qui est yin par rapport à une chose peut être yang par rapport à une autre.
Non. C'est toujours les quantités de barres pleines, les barres rompues, elles sont variables. C'est les quantités, les rapports les uns des autres, mais c'est toujours. Ça n'existe pas en dehors de yin yang. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, on dit quand finalement, vous n'êtes pas en bon équilibre, on vous dit qu'il faut être un peu plus yin. C'est tout. Et yin, ça commence d'abord par yin, ça peut d'abord par le féminin. Et ça, c'est essentiel. Je veux dire que c'est... Alors, je vais terminer par la formule de Max Planck qui disait « La vérité n'est jamais vainqueur. » Pardon ?
Non, la vérité ne triomphe jamais.
La vérité ne triomphe jamais. Ce sont ses ennemis qui meurent peu à peu.
Ce sont ses ennemis. Les ennemis de la vérité qui meurent peu à peu.
Ce sont ses ennemis.
C'est pour ça.
La vérité meurt peu à peu.
Bien. Bon, le buffet est ouvert.
Et les appétits aussi. Et les appétits aussi.
Je ne sais pas.
Ça, c'est une. Ça, c'est
pas grave. On utilise le mot pour des choses différentes. Là. Pardon ?
Non, je dis, pour moi, la conclusion, sa dernière phrase, je l'ai bien comprise.
C'est bien. Donc, tu as bien compris, c'est que tu admets qu'il y a une vérité.
Je pense
que... Qu'il y a une vérité qui préexiste.
Surtout sexuelle.
Alors, c'est pour ça que la prochaine fois, je vous propose, pour déjà voir un peu comment nous percevons les choses, parce que c'est absolument faire cette expérience, je vous propose,
au moins
une fois sur deux, au lieu de faire des choses trop conceptuelles, je vais faire... en conceptuel, je pensais à la pensée. Heidegger dit, c'est quoi penser? Il dit, denken.
Penser,
c'est remercier.
Penser, c'est remercier.
Pardon?
Penser, c'est remercier.
Pardon?
Penser, c'est
remercier.
Penser, c'est remercier.
Pardon?
Penser, c'est remercier.
Action. Bien. Donc, la prochaine fois, c'est prendre l'exemple, parce que finalement, c'est toujours l'histoire, vous entendez pas, vous voyez, vous m'entendez pas. Et je pense que c'est ça le principal, qui concerne les humains.
On va faire des sketchs.
Non. Je propose, il y a un film que je trouve qui est très bien, ça existe sous le livre, il est très bon le livre, c'est The Reader. Pardon ? Alors, je n'ai pas l'intention de prendre, vous faire passer au film en entier, mais j'ai l'intention de faire l'investissement d'un projecteur, et comme ça on pourra passer des séquences et on dit on passe à ce qu'on a vu.
Ah, c'est bien ça. Comment t'appelles le rider? R-E-A ou R-I?
The rider, le lecteur.
The reader.
Le lecteur.
Ah, the ghost writer.
Reader.
C'est pas la lectrice. Non.
Ah, lectrice, oui.
Et c'est très très bien. Je dis, c'est absolument. C'est en plus ça très actuel.
C'est un nouveau film.
Enfin, c'est absolument. Et ça parle de la Deuxième Guerre mondiale chez les Allemands. Formidable.
Le lecteur.
Et là, on le voit. Mais alors, souvent, vous verrez ce que les gens voient de ce film. Parce qu'aujourd'hui, souvent, quand tu vas la dire, comment c'est, là, oh, c'est bien ou c'est pas bien, ça s'arrête là. Mais tu sais pas ce qu'il y a. Pardon ?
Ça me paraît le sujet.
Voilà.
Allez voir le film.
Vous pouvez voir le film, vous allez le regarder en DVD.
Oh oui, si c'est un bon film. Ah ben non, tu sais, tu vas dans les cinémas d'arrêt d'essai bon, parce que...
Alors, et la prochaine séance, puisqu'il y a un mariage, cette fois-ci, ce sera le 25 septembre.
C'est la Saint-Michel.
C'est pas bien?
Si, c'est la Saint-Michel. C'est
25 septembre.
Ah ben, en général, c'est la fin des moissons, on fait la fête, on débauche les ouvriers.
Ah, ah, c'est pas le 29.
On ne sera peut-être du vin nouveau alors.
Peut-être. On embauche à la Saint-Jean et on débauche à la Saint-Michel.
Oh, ben, faut bien attendre la fin du mois pour débaucher avec les mensualités, etc.
C'est
la
samedi.
Oui. Parce que Sophie, les enfants ne peuvent venir.
Tant qu'à payer un mois, autant qu'ils travaillent le mois, quoi.
Ben voilà.
Bon, allez, merci.
Eh ben, merci.
Merci à votre présentation. Merci à vous. Alors, il y a une moitié, vous avez vu, la moitié de la salle, c'est-à-dire ma sœur, Benoît, Sophie, Françoise.
Oui, ah ben, pendant qu'on est assis, t'as raison.
Là,
qui n'a pas... c'est pas moi qui ai fait.
C'est ta maman?
Maman a fait, moi j'ai
alors, bien qu'on lui a demandé de rien amener, elle a quand même voulu amener quelque chose. Donc, le sable taboulé. Il y a Suze, elle est hors d'œuvre.
Chacune.
Donc, et moi.
Moi, j'ai juste épluché les radis.
La salade de fruits.
Oui.
Donc, salade de fruits, c'est Hilda.
Comme ça, on connaît le menu.
Voilà. Hilda.
Ah, merci.
Hilda, salade de fruits.
Oui, bah, c'est bon à faire, ça. Merci, Hilda. C'est bon, c'est bon.
Là, parfois, il manquait de salade de fruits. Là, encore un mauvais planning. Là, trois salades de fruits.
Eh ben, ce sera plein de vitamines.
Allez.
Voilà, ce sera vitamine.
Et Roger, et vous, vous
ne
venez pas?
Ah, ah, moi, c'est moi, le vin. Le vin, la salade, le pain.
Bon, c'est toi, là, c'est
Jean-Bert.
Les assiettes.
Moi, je veux bien voir.
La maison, l'accueil.
Voilà.
Alors, ça y en a
marre.
On est venu.